les entrevues de Mel, l'émission qui donne la parole à des personnes au parcours hors du commun, qui partagent le témoignage de personnes extraordinaires. Bonjour Patrick, bonjour à tous nos auditeurs. Ça va ce matin ?
Bah écoute, ouais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu là, hein. Il y a eu les fêtes. Ouais, je suis content d'être là.
Ouais, j'ai envie de te féliciter.
Ah bon ?
Pourquoi ? Oui, parce que je crois que t'as eu un diplôme là.
Ah ouais, bah donc tes sources sont bonnes. Effectivement, j'ai validé le DF, donc maintenant je suis éduc DEF.
Okay.
J'ai validé mon diplôme d'éducateur de football, ouais.
Ouais, c'est énorme.
Ouais.
Parce que je vois en face de moi un homme en forme.
Ah oui.
Qui a la patate.
Grave.
Qui fait du sport.
Tout le temps.
Et quand j'essaie de t'imaginer, quand tu nous racontes ton histoire,
ouais.
J'ai l'impression qu'il y a un décalage énorme.
Mais ah ben, la résilience. Et puis bon, là par contre, tu racontes des cracks à tes auditeurs parce que tu les as vus les photos et dans quel état j'étais. Et parfois même, tu me dis que tu as eu peur de les montrer aux gens que tu allais voir.
C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir une photo de toi dans cette période sombre. Et les personnes, en général, quand je les montre et que je vais faire des petites interviews des personnes qui sont autour de toi pour les prochaines émissions, elles sont surprises. Elles ne te reconnaissent pas.
Ouais, effectivement, ouais. Il y a du changement et ben, toute cette résilience m'a amené au métier d'éducateur.
Ouais.
Et pourquoi ? Ben, tout simplement pour essayer de permettre à ces enfants que j'accompagne, qui sont plus ou moins grands, hein, puisque cette année ça va de 13 à 25 ans, juste de leur montrer un chemin qui n'est pas celui que j'ai pris, c'est-à-dire d'éviter les méandres toxiques, alcool, shit,
ouais.
Clope, vapette, enfin tous ces trucs-là qu'ils font, surtout en ce moment-là avec leur délire de gaz que j'ai jamais essayé, là, tous ces jeunes-là, je leur évite ça, effectivement, c'est pour ça que je suis éducateur aujourd'hui.
Oui, on en parlera dans les prochaines émissions, de comment tu as rebondi dans ta résilience.
Ouais.
Je vais faire un petit résumé de ce qui a été dit pendant les émissions précédentes.
Mais vas-y.
Tu témoignes de l'alcoolodépendance. Le syndrome de cette maladie OH maintenant est plus clair. L'alcool est un mec, un modificateur d'état comportemental. La dépendance physique s'installe en augmentant toujours un peu plus sa consommation. Éthanol calme la souffrance, les angoisses, cette anxiété qui est là, tenace, la tristesse. Et toi, tu es un angoissé, Patrick. Il est là pour combler le vide, les manques, la solitude, tous ces traumas passés ouverts comme des plaies béantes, parce qu'éthanol semble tout solutionner, qu'il vient stopper l'hémorragie. On finit par perdre le contrôle de son comportement. Il exclut, il met à la marge. Parce qu'on est à la recherche permanente de l'apaisement. T'es d'accord avec ce résumé ?
Ouais. Et puis, bah, effectivement, comme tu l'as dit, moi, je suis un angoissé. Et je tenais à te remercier parce que cette émission, elle me permet un petit peu de voir un petit peu plus clair aussi sur mon passé, mon histoire. Et ce passage un petit peu flou. Et très clairement, en fait, l'alcoolodépendance chez moi s'installe à partir du moment où en 2008, je vais jouer justement au foot et que c'est avant les matchs de foot, j'ai besoin de boire de l'alcool pour pouvoir jouer au foot.
Ouais,
ce qui
ça.
Est hallucinant en fait.
Ça, tu nous l'avais témoigné dans une émission.
Voilà, tu vois. Bah,
ouais,
c'est,
bah, tout à fait.
Ce passage-là, c'est ça qui devient de plus en plus clair dans ma tête.
Avec la chimée.
Ouais,
la
c'est
chimée
ça.
Dans la voiture.
C'est ça, exactement.
Ça fait un petit rappel. Ben, on va revenir en 2008.
Ouais.
Hein, on va se faire le petit voyage dans le temps. Et en 2008, tu es alcoolodépendant, ça y est. Tu te sépares de la mère de ta fille. Tu perds tout. Et tu retournes, je crois, en région parisienne, c'est ça ?
Ouais, je pars. Ma fille est née en 2007 et 2008, donc c'est l'année où clairement ça s'installe. Et en fait, ça confirme ça parce que je vais me faire hospitaliser dans un établissement qui s'appelle Théophile Roussel à Montesson chez mes parents, donc dans la banlieue parisienne. Et je suis alcoolo-dépendant, mais à cette période-là, on ne parle pas encore de maladie. Et là, en fait, clairement, je glisse vers ce qui va être, comme tu l'as bien dit, toute l'exclusion, la mise à la marge, etc. Et j'ai un pied dans les soins, mais je ne sais pas pourquoi je suis dans les soins. J'y suis parce que j'ai un mal-être et j'y suis parce que je suis un angoissé. J'y suis parce que la vie relationnelle avec la mère de ma fille n'est pas bonne. Et donc, voilà, le tableau, il est vite fait. Je suis en région parisienne, je suis à la marge au niveau de la famille et mes projets dans le sud tombent un peu à l'eau. Voilà.
Oui, c'est ça. Moi je me pose la question quand même, on parlait de syndrome.
Ouais.
Donc les syndromes, c'est un ensemble de symptômes.
Ouais.
Quand tu remontes à Paris, tes parents, tu remontes donc chez tes parents, ils se rendent compte de ça ?
Non. Bah, on parle souvent de déni dans la pathologie, et ça, je vous l'ai déjà dit à tous. Moi, j'ai jamais été dans le déni, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me rends bien compte que je suis dépendant de l'alcool, je l'accepte en fait, j'accepte ce que je suis, j'accepte cette attirance, ce mariage qu'il y a entre Ethanol et moi. Et par contre, mes parents me regardent comme un excessif, me regardent comme ils n'ont pas la notion de l'addicto,
de la maladie, ils ont
de
pas
la maladie,
ça.
Non, pas du tout,
pas
et,
du tout.
Et même encore aujourd'hui,
oui, bon,
mon
côté
père
de
fait
ça.
À son âme, lui, je crois qu'il a jamais trop compris puisqu'il est mort avec ça il y a pas longtemps. Et par contre, ma mère, elle aujourd'hui, qui est de notre vivant, elle est complètement à côté de ses pompes, quoi. C'est ouais. Des gens qui n'ont pas compris, alors que c'est des gens qui sont brillants intellectuellement. Mais non, mes parents et ma famille sont à 10 000 lieues de ça, et je fais partie de ces gens. Et là, il y a des auditeurs qui vont se reconnaître, c'est que le mec qui est dépendant, il le sait. Ou la femme, hein. Je dis le mec, ouais. Je vais parler au masculin, parce que la parole de tous les jours, on parle au masculin, mais je parle des hommes et des femmes, bien évidemment. Au fond de nous, on est en souffrance, on sait que Ethanol est un pansement qui vient combler tout ça, là, les manques dont tu as parlé, qui vient soigner les plaies, qui vient apaiser. Et en fait, forcément, tu sais que c'est ça qui t'apaise. Donc le mec qui est dépendant ou quelqu'un aujourd'hui, là, et c'est ça que je veux faire, c'est prévenir les gens, quelqu'un qui va au produit pour avoir un comportement, pour éviter cette tristesse, pour se sentir bien, pour oublier un peu ces méandres et ces douleurs et ces souffrances, il faut qu'il s'interroge. Et c'est là où, à l'époque, j'aurais aimé avoir un Patrick à côté de moi qui vienne justement dire en famille, bon, attention, en fait, la consommation de Patrick, elle n'est pas plaisir, elle n'est pas dans l'envie, elle n'est pas dans le partage, elle est juste dans l'apaisement.
C'est ça.
Voilà, elle vient soigner quelque
chose. C'est ça. J'allais dire, elle est dans le soin. Enfin, c'est complètement paradoxal de dire ça, mais... J'ai pas d'autre mot. Elle vient soigner quelque chose chez toi et ça soigne rien en fait.
Alors ça apaise, ça c'est un pansement, ouais. Ça, c'est un masque, ça vient cacher.
Un emplâtre sur une jambe de bois, comme dirait ma grand-mère.
Ouais, tu peux le dire comme ouais. Ça. C'est quelque chose qui est pas, c'est pas inutile. Parce que forcément, ça t'apporte quelque chose de positif. Ouais. Donc, c'est pas, on peut pas. Et c'est là le vice de l'addiction. C'est que comme ça t'apporte quelque chose de positif, réellement. Ben, t'y trouves un apaisement, t'y trouves quelque chose qui te tient. Donc, t'en as besoin, en fait, petit à petit. Et moi, je suis exactement dans ce profil-là. C'est-à-dire que j'ai des souffrances. Mes souffrances, je suis pas malade de psy. J'ai physiquement, tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, je suis un mec, j'ai de la chance. J'ai pas été tant abîmé que ça, mais le corps humain est une machine extraordinaire. On se reconstruit, on se refait. C'est ça aussi que les gens doivent entendre. C'est que arrêter, c'est aussi redonner une chance à son corps de reprendre le dessus. Et le corps est une machine de guerre. Et en fait, je consomme pour ne pas souffrir. Et je consomme pour pas être dans l'anxiété. Je consomme pour ne pas penser à ce que je suis en train de vivre. Et effectivement, vu de l'extérieur aujourd'hui, et je suis le premier à le dire, l'alcool n'a aucun bénéfique. Et c'est paradoxal, puisqu'en fait, ça met bien les gens. Donc, la juste mesure, c'est de comprendre pourquoi on consomme de l'alcool et quel bénéfique on en tire. Le bénéfice que moi je tirais à l'alcool, c'était de m'apaiser. Et là, c'est là où je pense au docteur Possos avec qui je collabore, c'est que c'est le masque. C'est-à-dire qu'en fait, je mets un masque. Quand je bois, je mets un masque. Et du coup, ben, je vais bien, je suis content d'être avec la famille. Mais ça n'enlève pas les manquements parentaux que j'ai eus. Ça vient pas remettre ma fille dans ma vie actuelle. Et en fait, ma fille naît en 2007 et déjà en 2008, je perds ma fille.
D'accord.
La réalité, c'est ça. Ouais.
Quand tu es... C'est une première hospitalisation pour toi. Donc, c'est plutôt pour tes angoisses que tu es hospitalisé. du coup.
C'est ça, je ne suis pas du tout pris en charge par la Sécurité sociale avec l'intitulé « Patrick est un alcoolique
voilà. »,
donc vulgairement alcoolique, et où Patrick est en prise en charge parce qu'il y a une consommation voilà. toxique et on classe ça dans la maladie OH pour que ça soit discret à la Sécurité sociale. Non, je suis là-bas parce que je suis pas bien, je suis dépressif, et puis moi-même, je suis pas au clair en fait avec tout ça. C'est là je t'en parle, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, ouais. de traitement psy. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, j'ai compris, je sais où j'ai eu des failles dans mon apprentissage de vie, c'est-à-dire dans mon enfance, dans ma mm-hmm. construction de vie d'adulte. Et aujourd'hui, j'arrive à pallier à ça autrement qu'avec l'alcool.
Ouais. Voilà. De cette hospitalisation, mm-hmm. tu ramènes un objet.
Ouais, ah. celui-là, il t'a fait rire.
Oui, une assiette en terre cuite avec le prénom de ta fille dessus. C'est pour elle que tu as envie de redescendre dans le sud.
Ouais, et d'ailleurs, là, tu viens mettre, on en parlera au moment du soin et de comment on aborde les soins en addicto. Je le dis vite fait, mais on étayera ça plus tard.
Ouais.
On ne se soigne pas pour les autres. Voilà.
Ouais.
On se soigne pour soi, on ne peut pas aller bien pour les autres. On va bien pour soi et quand on va bien, on peut être présent pour les autres. Et ça, cette nuance, elle est hyper importante. C'est, je le dis clairement, n'importe quelle personne atteinte d'addicto toxique, et notamment l'alcool, parce que c'est celui qui m'a attrapé, le pire, eh ben, ne vous soignez pas pour celui qui est à côté. Ne vous soignez pas pour votre mère, pour votre père, pour votre enfant, pour votre frère, votre époux, votre épouse. Vous ne vous soignez pas pour eux. Soignez-vous pour vous. Et quand vous irez bien, les gens vous aimeront pour ce que vous êtes. Mais on ne se soigne pas pour les autres.
Oui, c'est important de dire ça.
Et donc, du coup, effectivement, je ne vais pas me soigner parce que j'ai une fille. Voilà, c'est clairement, je ne vais pas me soigner parce que j'ai une fille. Par contre, ma fille, elle est là et moi, je ne suis pas là. Et à l'époque, je n'ai pas compris que l'absence d'un parent, c'était, ça abîmait les enfants. Quoi, hein. Et ça, aujourd'hui, j'en ai conscience, d'autant plus avec la vie que j'ai et la relation que j'ai avec ma fille. Mais quand je suis dans l'hospitalisation, en fait, le seul truc qui me manque, c'est de poupouner ma fille, c'est d'être papa. J'avais envie d'être papa. Cet enfant, c'est un enfant désiré. Il est... La mère de ma fille n'est pas tombée enceinte, c'est pas un hasard de la vie. Je déteste cette expression,
oui.
Femme qui tombe enceinte.
Je sais.
Je trouve ça laid comme expression, c'est incroyable. La mère de ma fille et moi, cet enfant, on l'a désiré et on a fait ce qu'il fallait pour que ma fille naisse. Et une fois qu'elle est née, c'est triste d'avoir un enfant et de pas le voir. En fait.
Oui.
Et du coup, voilà, je suis là-haut. Et cet objet dont tu parles, aujourd'hui, c'est une assiette. Donc, cet objet, c'est une assiette en terre. Pour ceux qui font un peu d'art-thérapie, le rapport à la terre, pour ceux qui aiment les énergies, la terre, en général, c'est souvent lié au père. Et voilà, et moi, mon père, c'est vraiment pas l'homme que j'ai kiffé dans ma vie, quoi. Et en fait, cette assiette, en art-thérapie, on m'avait proposé de travailler de la terre. C'était aujourd'hui, je le sais, à l'époque, je ne le savais pas. Ce n'était pas anodin, c'était le rapport au père. Et en fait, j'ai confectionné cette assiette, qui est une assiette, je ne suis vraiment pas doué pour ça. Le foot, la cuisine,
oui.
Ça va, mais l'art-thérapie, c'est pas, voilà, je ne suis pas très doué. J'ai fait une assiette qui est à moitié ronde, à moitié carrée, on ne sait pas trop. Et dessus, j'ai marqué Maël. Et en fait, comme on est en 2008, j'ai marqué 2008. Et c'est très... Enfin, moi, ça me fait rire, ça me fait sourire, mais ça en dit beaucoup.
Ouais.
Parce qu'en fait, en général, quand il y a une date sous un prénom, c'est la date de naissance.
Exact.
Et ma fille est née en 2007, et là, il y a marqué Maëlle 2008.
Oui.
Voilà. Et cet objet, il orne ma... il est dans ma chambre. Il est dans ma chambre. On ne voit que ça, même. Et ça veut tout dire de l'importance qu'un enfant a dans la place, enfin toute la place qu'un
Bien
enfant
sûr.
A pour un parent. Et je pense que c'est aussi vrai pour les mamans, pour les papas, même si après je vous dirai quelque chose qui est un peu différent.
Oui.
Mais à aujourd'hui, voilà, ma fille, c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est mon petit trésor, quoi. Mmh. Et en fait, dans ma pathologie, mon petit trésor, je le perds, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Quand tu redescends dans le sud. Tu me disais, j'ai fait 11 déménagements. Je crois que tu l'avais dit aussi dans des émissions précédentes. Tu traverses une grosse, grosse galère quand même. Jusqu'à ce qu'on te tende la main. Je t'entends souvent dire que tu as rencontré le diable.
Ouais, alors bon, là, il faut être au clair avec les auditeurs. Je fais ni de la politique ni de la religion, hein, d'accord? Donc, je respecte, moi, ma religion, j'en ai qu'une, c'est de respecter celle des autres. Comme ça met tout le monde, tous les auditeurs au clair à ce sujet-là. Mais il m'appartient aussi d'avoir les miennes. Et du coup, j'ai des convictions très particulières. Je ne vais pas vous en parler parce que vous n'allez pas croire que j'ai arrêté de fumer le THC. Je fais une petite dédicace à un jeune avec lequel on travaille à la radio, que tu connais sans doute, et qui je sais, grâce à des petits propos comme les miens, parfois se dit ah bah tiens, peut-être qu'il faut arrêter ce genre de truc. Et du coup, ouais, ça te fait sourire parce que toi, tu sais de
Oui,
qui je parle. Mais du coup, voilà, effectivement, je suis pris dans une espèce de tourbillon de déménagement qui va, qui vient, on me tend la main. Je pense que tu fais allusion à André.
oui.
Tu peux citer André parce que
Oui,
c'est quelqu'un d'important dans ma vie.
j'ai envie de le citer parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer et c'est vraiment quelqu'un qui a pu te tendre la main et du coup qui t'a logé à un moment donné.
C'est ça.
Et comme on parle depuis le début des émissions de descente aux enfers, c'est vraiment ça que tu vis, quoi.
Voilà, et justement, donc tu vois, il y a plein de petits ponts. Donc je pense à tous les gens qui nous écoutent et qui ont un lien avec le toxique, malheureusement trop présent. C'est le bordel dans la vie des gens. Moi, tu dis très poliment des déménagements, mais la réalité, c'est que j'ai pas de domicile fixe. Donc ça s'appelle SDF en France. Et je suis pas le SDF qui est dans le caniveau, en train de dormir sous un pont, un carton, un milieu que je connais très bien. Moi, j'y ai mis un pied, mais j'y suis pas resté, heureusement, parce qu'on n'en sort pas. Et effectivement, André m'a sorti de là. Et ce qui est important pour les auditeurs ou les gens qui nous écoutent, c'est que ce que moi j'ai vécu, c'est intéressant de t'en parler. Et puis je peux venir vous chatouiller, mais ce qui m'importe, c'est que les gens qui nous écoutent, ils se reconnaissent. Et la réalité, c'est que je suis juste dans un bordel organisationnel entre le fait que ma fille habite dans le sud de la France. Que la seule famille qui me reste, parce que j'ai déjà mis tout à l'écart, hein, j'ai plus de copains au foot, j'ai plus. Enfin voilà, je suis dans un autre monde. Et
L'exclusion.
l'exclusion,
On
exactement,
est là.
c'est le mot,
C'est
voilà,
ça.
je suis dans l'exclusion. Et la seule famille qui me reste, c'est celle qui est à Paris. Celle qui est à Paris, je les intéresse pas, et ce que je leur propose ne les intéresse pas, ce qui est normal, parce que tu fais chier le monde, quoi. Hein. Et le seul intérêt que j'ai dans ma tête, ou la seule obsession, c'est de voir ma fille dans le sud. Donc je balaye un petit peu tout ça, et effectivement, je finis à Ballaruc-les-Bains. Pour les gens qui sont de la région, c'est une des villes qui ornent le bassin de Thau. Et je vais, dans cette région-là, être hébergé par un ami de mon père, qui s'appelle André, que tu as rencontré. Et grâce à lui, je vais avoir un toit d'une période. En fait, c'est un appartement qui met en location pour des gens qui viennent faire des balnéos.
Oui, parce que c'est vrai que c'est effectivement, il y a une baléo à Balaruc, ouais.
Voilà, et en fait, cet appartement, il me le met à disposition tout l'hiver. C'est-à-dire qu'il dit à mon père, écoute, t'es un ami et ton fils, je vais l'aider, je vais t'aider dans ta parentalité. C'est ça
Ouais.
qu'il dit à mon père. Hein. Il dit, tiens, prends les clés de l'appartement et s'il te plaît, juste fais en sorte que Patrick nous rende l'appartement dans un état correct. Et là, les mecs qui sont dans l'alcoolisme et qui sont dans les méandres, ou les gens qui entourent ces gens-là, ils savent de quoi on parle. Hein, et je t'en parlerai aussi
Oui.
aujourd'hui. Je vais commencer à vous parler de ça, je suis, moi aussi, je vis dans un truc. Ça sent pas très bon chez moi. Mon lit est pas très propre. Mes fringues non plus. J'ai pas une hygiène de vie de ouf et enfin corporelle. Je parle. Hein, je parle de la douche et du bain tout simplement. Hein. Des draps propres, tout
Ouais.
ça, on oublie. Hein.
Ouais.
Et effectivement, je m'installe à Ballaruc-les-Bains. Et à Ballaruc-les-Bains, dans cet appartement, j'y reçois ma fille. En fait, grâce à cet appartement, je peux être un petit peu papa. Et
C'est ça.
donc c'est bien parce que j'ai la chance de pouvoir avoir ma fille une fois tous les 15 jours.
C'est ça, c'est ce
Et
que j'ai.
ça, c'est ça à cette époque, tu vois, autant on se soigne pas pour l'autre, autant nécessairement le fait de voir ma fille à un moment a forcément calmé quelques tensions, quoi.
D'accord. Donc tu reçois ta fille tous les 15 jours. Comment ça se passe du coup? Parce que avant de te poser cette question-là, j'aurais voulu que tu nous décrives un peu ton environnement, ton appartement. Tu m'as raconté des petites anecdotes, et je ne sais pas dans quel appartement c'est, d'océan de canettes, par exemple.
Ouais, alors là, tu brûles des étapes. D'accord. Parce que on est en train d'accueillir Maëlle à Balaruc dans l'appartement d'André. Donc l'appartement d'André, c'est un appartement de ouf. Il fait 75 mètres carrés.
D'accord.
T'as une terrasse. Je suis au premier étage d'un petit immeuble face à l'étang avec le Monde 7 devant moi.
Royal.
Royal au bar.
Donc c'est pas là. Okay.
Ouais, Royal au bar.
D'accord.
Et donc c'est un énorme appart avec une énorme baie vitrée. C'est très très mal isolé parce que c'est un appartement gruyère des années 80.
Okay.
Mais du coup, je vis là avec ma fille, je la reçois tous les 15 jours. Et après, je vais acheter avec l'argent que j'ai mis de côté, parce que ça, c'est un des trucs où j'ai été bon dans ma pathologie. Je vais acheter un appartement à Balaruc à côté qui sera un petit studio, une boîte à chaussures.
Ouais.
Et par contre, ça sera le mien. Et dans cet appartement, je vivrai avec mon berger allemand qui
D'accord.
est mon ombre, et
D'accord.
je vivrai avec ma fille une fois de temps en temps, tous les 15 jours en gros, en garde alternée, et après j'irai vivre à Gijan, et à
D'accord.
Gijan, là, t'y okay. es, c'est ça,
ça y
dont
est. Ouais,
veux,
les
11
déménagements,
ouais.
je suis perdue.
Voilà,
mais
voilà.
Du coup, tu reçois ta fille tous les 15 jours, comment ça se passe du coup, quand tu la reçois?
Alors, là pareil, je vais répondre en pensant aux gens qui nous écoutent, et là je fais un petit clin d'œil à toutes les mamans et tous les papas qui sont en séparation et qui ont la garde alternée de leurs enfants. Je suis papa, j'ai pas choisi d'être un garçon ou une fille. Les femmes qui m'écoutent ont pas choisi d'être maman ou enfin d'être un garçon ou une fille. Et le schéma aujourd'hui classique de la famille française, c'est que quand il y a une séparation, en général, la maman a la garde des enfants et le papa ne l'a pas. Mmh. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est factuel, c'est pas mon propos, je n'ai pas de source qui va vérifier avec un taux, mais si je devais dire moi ce que je vois de l'extérieur, je dirais qu'aujourd'hui quand il y a une séparation de couple, à 97% des cas, ou 98% pour pas dire qu'elle est 100%, il y a forcément des exceptions,
c'est la maman qui
a les enfants. Mmh. Pourquoi je précise ça? Parce que une fois n'est pas coutume, dans la situation qui est la nôtre, je suis le papa et je suis celui qui clairement a du mal à assumer ses responsabilités familiales. Voilà. Et en plus, je suis un alcoolique et un alcoolique qui est dans un autre monde et qui a l'hygiène de vie que j'ai, et puis qui, ça en pas d'être un bon papa,
oui.
Mais tu n'assures pas. Voilà, je peux pas assumer d'avoir un enfant à charge à plein temps, et j'en suis pas capable. J'ai pas. Mais du coup, une fois que tu as admis ça, ce qui serait intéressant que les Français, en tout cas les gens qui nous écoutent, je dis Français parce que j'habite en France, mais que les gens qui perçoivent le message que je voudrais passer, c'est que par nécessité, quand tu n'as pas ton enfant pendant 12 jours calendaires et que tu le reçois pendant 2 jours et que tu le remets 12 jours à l'autre parent, mathématiquement, quand la maman a la garde de l'enfant, elle a passé 24 jours avec, pendant que le papa a passé 4 jours. Mais le ratio, il est de 6, hein, 6 fois 4, 24. Oui. Ça veut dire qu'une maman, elle est 6 fois plus entraînée à être maman au quotidien qu'un papa. Voilà. Mmh. Et quand le papa reçoit l'enfant, c'est une galère de fou. On ne sait pas faire. Moi, je ne savais pas être papa.
Ouais.
Et en fait, le seul truc que je savais faire avec ma fille, c'est d'apprendre à la regarder en quelques jours. Et puis, j'avais cet ovni là qui bouge dans tous les sens.
S'adapter aussi.
Qui a une demande particulière. Et puis, moi, c'est la première fois que je suis papa dans ma vie. Et je ne sais pas ce que c'est un enfant. Il n'y a pas de notice. Je ne suis pas devin. Et donc, je suis un bon papa. En tout cas, c'est les propos de la mère de ma fille. Et c'est les propos de ma fille. Je suis un bon papa. Après, ce que je propose, c'est naze. Et là où j'habite à Balaruc, à ce moment-là, quand ma fille vient, je vous fais le tableau pour que vous compreniez un peu la scène. C'est une grande allée moderne, une promenade là devant les tentes tôt. Et quand ma fille vient, on a le berger allemand, on a les tentes tôt avec la plage, la mini plage et le bassin. Quand il fait beau, on est en maillot de bain et
les pieds dans l'eau.
Mmh. Et quand il fait moins beau, on n'est pas sur la plage, mais sur la promenade. Et sur la promenade, il y a un petit parc de jeux modernes là, avec un revêtement
pour
comme
enfants,
un terrain de tennis.
Mmh.
Vous avez une pauvre maison en plastique. Ça, c'est le regard de l'adulte. Hein.
Ouais, ouais.
Une pauvre maison en plastique avec, qui fait 1m12.
Oui, parce que l'enfant, il kiffe, hein, lui. Hein,
Ah, attends, après, je vais te parler en version Winnicott.
C'est ça.
Après, je vais parler comme Winnicott.
Oui, oui.
Mais, et donc, tu as un tape-cul avec un gros ressort. Tu vois le bébé, là.
Ouais, toujours le regard de l'adulte, mais voilà, l'enfant, il kiffe.
Voilà. Mais moi, je ne peux même pas m'asseoir dessus, le truc. Ouais, je le tords. Et un tape-cul. Mais un tape-cul, ma fille, elle fait 15 kilos et moi, j'en fais 100, quoi. Tu
ouais,
vois
ouais, c'est ça.
Bon, donc... voilà, et donc on a l'eau quand il fait beau avec la plage,
ouais.
tous les à chaque fois que je l'ai, c'est le même jeu, quoi, tu
et
vois.
Oui.
Le soir, on a les mouettes et on a de quoi jouer à la marchande. Oui. Et ma fille, cette maison, le tape-cul là juste devant la maison,
elle adore.
Quand tu es devant la baie vitrée de la maison, elle kiffe, t'as les petits voiliers là-bas sur les tentes, t'as du monde, t'as de la vie, c'est paradisiaque en fait.
Ouais,
je suis dans un paradis. Et ma fille, quand elle vient chez son père, elle kiffe. Elle sort de la maison, elle court, elle est dans l'eau. Elle sort de la maison, elle fait 2 mètres, elle est dans la petite maison où elle joue à la marchande. Et donc, je suis dans cet appart. Pour revenir à ta question, j'ai une vie sympa finalement. Ouais. Je suis alcoolique, donc je suis tout le temps alcoolisé. Je fais attention à ma fille parce que c'est mon précieux, c'est mon trésor. Et je sais aujourd'hui que je ne suis pas trop en phase avec le développement de l'enfant à ce moment-là. Mais elle s'en fout parce que le principal, c'est d'avoir un papa qui l'aime.
C'est un ça, papa, c'est ce que j'allais dire. Un
papa on fait des gâteaux, on s'éclate, on se fait des crêpes et tout. On mange mal, on mange que des crêpes, on mange que des gâteaux. Et elle kiffe, je lui apprends à faire de la cuisine. Et en fait, quelque part, ça m'apaise. Et comme je suis apaisé, j'ai mon taux d'alcool qui est là. Mais j'ai pas besoin de calmer des pensées, des trucs. Et donc, du coup, entre musique, pâtisserie et plage quand il fait beau et cette petite maison où on joue la marchande, finalement, elle kiffe et elle kiffe son père. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça. Mais à l'époque, je me rends pas compte que c'est ça. Et à l'époque, je me fais chier. Et quand, quand t'as passé 1 heure au parc, 2 heures au parc, et que t'es adulte et que t'es alcoolique comme moi, tu te fais chier avec ton gamin, quoi. Et t'as l'impression que tu fais rien, et t'as l'impression que c'est toujours la même chose. Tu mets pas l'importance que l'enfant a à passer du temps avec toi. Et ce temps précieux avec l'enfant, je m'en saisis pas parce qu'en fait, autour de moi, j'ai personne qui m'appuie et qui m'oriente sur la parentalité, sur l'importance de ces moments, de comment les partager. Vraiment, je vous invite à imaginer une grande promenade le long de l'étang. Là, il y a 300 mètres entre l'angle de la rue et chez moi. Et qu'est-ce qu'il y a à l'angle de la rue? Il y a un bar.
C'est ce que j'allais dire, il y a un bar.
Il y a un bar. Et donc, c'est une ville morte. Ça a été en hiver, il n'y a personne. Mais par contre, il y a le bar. Voilà. Et dans le bar, évidemment, j'ai mes copains. Alors, je t'ai dit que je consommais au féminin l'alcool. C'est-à-dire que je me cache de l'alcoolisme, je me cache de mon excessif. Je ne le donne pas aux gens, ça. Je donne rien à manger aux gens et je fais bonne figure.
Oui, tu te caches pour boire cet alcoolique.
Ouais,
cet alcoolisme au féminin, c'est ça.
Je me cache pas parce que.
Mais tu le fais seul chez toi.
Mais je le fais seul, j'emmerde pas
voilà,
les gens.
Voilà, c'est ça.
Je suis pas au comptoir en train de faire chier les gens, quoi. Mais paradoxalement, dans ce bar à Ballaruc-les-Bains, j'ai mes potes.
Ouais.
J'ai mes potes de comptoir. Et c'est un bar où c'est tranquille, c'est un peu feutré. C'est pas le PMU du coin, quoi. Tu vois, c'est pas le truc où tout le monde fume dedans alors que c'est interdit.
La ville balnéaire, en hiver, où il y a peu de monde, où il y a que les habitués ou les citadins qui sont là, qui sont peu nombreux.
C'est ça. Et ce jour-là, je sors un petit peu avec ma fille et elle me dit: papa, viens, on va jouer à la marchande. Et je lui réponds pas comme ça, mais je la regarde et je fais: écoute, la marchande aujourd'hui, ça va quoi, elle est fatiguée. Et donc, je vais au bar. Et je vais au bar avec ma petite fille qui a 3 ans, grosso.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai posé comme question.
Ouais, elle a 3 ans, c'est un poupon, quoi. Hein. Ouais. Elle court vite.
Elle a 3 ans, ça court.
Ouais, ouais, elle a une bonne mémoire, elle sait où sont les choses, elle. Et en fait, je vais dans ce café et je me perds dans une conversation avec les mecs avec qui je suis. Et le temps passe. Et ma fille me tire le pantalon comme ça, tu vois. Toi, les auditeurs, ils ne le voient pas, mais tu vois, elle insiste comme ça. Et elle
mais
me
je vois bien.
Elle est bien éduquée, cette petite. Elle sait que quand papa parle et tout, il faut être tranquille. Je tape pas dessus quand elle me parle, hein, pas du tout. Mais je dis: allez, pépette, s'il te plaît, tu vois. Et donc, je l'envoie un peu péter et je m'oublie dans ce bar avec les gars. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se casse. Mais moi, je ne le vois pas qu'elle se casse. Et je continue à picoler des verres, c'est pas non plus la beuverie, tu vois, mais on papote de tout, de rien, je suis une vraie pipelette, donc le temps passe, ça j'ai pas changé. Et le temps passe, et à un moment, Mais oui. Comme l'heure a tourné, tout le monde se barre. Allez, salut Pat, on se revoit la prochaine et tout. Et là, au moment où dans mon cerveau, il y a quand même un truc qui dit tiens, il faut qu'on se barre, je me barre. Et là, j'ai un truc, j'ai une lumière. J'ai où est l'enfant ?
Où est l'enfant ?
Oh, et là, c'est rigolo parce que il y a pas de conséquences. Après, ça me fait penser à un titre de musique, mais après, je vous en raconterai une qui ressemble à celle-là. Elle est beaucoup moins drôle. Et du coup, je sais pas où est ma fille. Je cherche et je vous ai dit tout à l'heure, c'est un angle de rue. Ça veut dire qu'il y a un endroit, ma fille, elle connaît pas du tout. On n'y va jamais.
C'est ça.
Et de l'autre côté, il y a 400 mètres. Le long de la plage, c'est vide, c'est en hiver. C'est-à-dire qu'un enfant habillé avec son pantalon rose ce jour-là et son pull vert et son bonnet blanc, tu le vois de loin.
C'est ça.
Et là, il n'y a pas d'enfant.
Oh, punaise.
Et là, je me tape une flip.
J'imagine le retournement du cœur qui se fait dans la poitrine.
Ouais. Vous avez tous, parents, soyez honnêtes avec vous-même, ceux qui nous écoutent, fait une fête foraine.
Où est l'enfant ?
Et là, t'es seul au monde. Et t'as tout le monde qui te voit paniquer, tout le monde qui te dit mais vous inquiétez pas.
Oui, et tu tournes la tête de partout, voilà. Tu cherches, t'essayes d'avoir des yeux éclairs de où est l'enfant. Oui.
Mais en réalité. Eh ben tu te chies dessus.
Mais carrément.
Voilà.
Carrément.
Pendant un long moment, un court moment, mais qui dure une éternité dans ma tête.
Ouais.
Je suis seul au monde. Et je regarde le côté immeuble et je me dis, elle connaît pas cet endroit, c'est pas possible. Et j'ai pas cette lumière du parc juste devant la maison. Et là, je commence à cavaler en panique, en cherchant ma fille. Je l'ai perdue. On l'a kidnappée. Elle est où, quoi?
Ouais.
Eh ben la petite, elle était juste en train de jouer à la marchande toute seule
dans le parc.
Elle était belle.
Dans sa petite maison, petite cabane.
Ouais, et puis elle me regarde et elle me dit un truc du genre « Allez papa, ça y est, tu viens jouer !»
Punaise, avec toute son innocence alors que toi tu t'es chié dessus quand même.
Avec sa patience. c'est ce qui caractérise ma fille aujourd'hui, ouais, c'est qu'elle a une patience de ouf. Et du coup, voilà, c'est un moment qui, ça me réveille plein de trucs. Et en termes de musique, si t'es d'accord,
je savais
que j'allais te parler un peu de ces deux anecdotes.
C'est une surprise pour moi en plus, voilà. Parce que je ne sais pas du tout ce que tu vas passer.
Et par contre, je l'ai dit à Issa aujourd'hui qui tient la régie. Et si tu veux, Issa, avant de lancer le son, juste cher auditeur, le gars que vous allez entendre, c'est un copain de parcours dans le soin. Et pour moi, c'est un vrai musicos. Il joue, il compose. Vous pouvez le trouver sur les plateformes de musique connues. Et vous verrez, il mérite d'être connu. Voilà, c'est un vrai artiste. Et si tu veux bien, Issa, tu nous balances le son. Et juste, faites bien attention aux paroles. Et mettez-vous dans la peau du daron que je suis qui a perdu sa petite.
Parfois, je me réconforte en me disant que tu es bien dans les bras d'un autre, mais peu importe s'il sait cicatriser ton chagrin, s'il s'occupe de toi comme tu le mérites, du fond de mon orgueil je le félicite, et pourtant j'ai mal des fois de te voir sourire si loin de moi. J'espère seulement qu'il endort tes tourments, apaise tes peines, combat tes peurs. J'espère seulement qu'il prend le temps de comprendre ton cœur. Mais tout ce que je souhaite, c'est de te savoir heureuse, épanouie, sereine dans ta petite tête, comblée de rire, de savoir joyeuse. Pourtant c'est con, mais au fond des tripes, J'ai comme une drôle de déception qui s'agrippe, celle d'avoir volontairement laissé choir ma plus belle histoire.
Eh bien, là, tu m'as eu, en fait, parce que tu m'as pas prévenu du morceau que t'allais passer. Tu m'as dit, l'écoute pas. Et j'ai versé ma petite larme. C'est magnifique. J'entreperçois pourquoi t'as choisi ce morceau-là. Et je suis toute émotionnée dans ma voix. Bah, c'était Barbe à Pape, si vous avez envie de l'écouter. Graine d'ortie, Clément, qui a composé et chanté ça. Et cette émotion, vous l'avez sur Radio Escapade à 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102 à La Salle et 103.3 à Ganges-le-Vigan et sur radioescapade.org. Voilà, je te redonne la parole, Patrick.
Bah écoute, chacun son tour, forcément. Oui. Je fais bonne figure parce que je savais qu'on allait écouter ça. Je glisse quand même que Clément est un polytoxicomane, toutes les drogues dures et l'alcool bien sûr, puisque l'alcool est un démon. Ouais. Et en fait, Clément, je sais pas où il en est et j'aimerais bien à travers soit justement la radio ou le temps recroiser ce mec avec qui j'ai partagé la post-cure du château de Longzeg, voilà. Ouais. Et comme il était polytoxico, il lui fallait une cartouche de plus en soins au moins pour s'en sortir, puisque à cette post-cure, lui, il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc il est forcément retombé dans des méandres, mais c'est ce qui fait l'artiste qu'il est, et c'est un bon musicos. Voilà.
Est-ce que je peux te citer? J'ai envie de citer une de tes phrases.
Vas-y, je t'en prie, lâche-toi.
Je te cite.
Fais ce que t'as à faire.
Ouais, l'enfer, c'est ponctuellement prendre conscience que rien n'est possible sans le produit. Et que sans le produit, on ne peut rien faire.
Ben ouais, c'est ça l'enfer, c'est la dépendance. Et l'alcool, c'est un démon parce qu'il est puissant, il peut t'attraper n'importe quel autre démon, le tordre en deux et finalement remplacer ce démon ou l'apaiser ou l'éteindre. Et lui, il prend toujours le dessus. Et finalement, il devient l'outil indispensable pour avancer, pour la vie, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est un putain d'allié, mais il va te la faire à l'envers.
C'est ça.
Il va te la faire à l'envers. Il va t'emmener dans des choses qui sont pas bonnes. Et en plus de ça, le paradoxe, encore une fois, c'est que sans lui, t'es capable de rien faire.
C'est ça.
Donc il prend une place, il devient un deuxième toi et il te manipule finalement. Ouais, c'est ça, c'est un diable. C'est le diable, c'est plein de choses. Je faisais allusion tout à l'heure à ça, aux religions, etc. Moi, je dis que je ne crois pas en Dieu, mais j'ai rencontré le diable. Ouais. Et comme tout s'équilibre à un moment... Ben, si j'ai croisé le diable, c'est peut-être que Dieu existe. Voilà.
Donc oui, chacun... tu me parles de boucles qui ne s'arrêtent jamais.
Jamais, ça s'arrête
avec
pas.
Avec de toute façon la souffrance qui revient à chaque fois.
C'est ça.
Donc
c'est ça.
Tu penses la souffrance, tu penses penser la souffrance. Et en fait, non, tu penses... c'est juste un emplâtre sur une jambe de bois, comme je disais tout à l'heure. Ça guérit rien, ça
c'est
ne
exactement
résout
ça.
Rien.
C'est exactement ça. C'est, cette puissance qu'il a t'emmène dans des te rend fou et t'amène dans un monde qui est au-delà. Et tu vois, je t'ai raconté cette anecdote-là à Balaruc-les-Bains qui... Je me permets d'en sourire de le fait d'avoir zappé que j'avais ma fille et puis
oui
de...
parce que ça s'est bien terminé mais, parce que
ben c'est surtout que quelque part et je m'octroie quand même cette possibilité, c'est que j'habite à Balaruc-les-Bains, on est en hiver, je veux dire il y a pas des requins dans l'eau, il y a pas on n'enlève pas les enfants à Balaruc-les-Bains, il y a personne à enlever, donc
ouais.
Ils vont pas les enlever des enfants là,
une petite mamie qui travaille
ouais
encore
bon voilà
à l'heure
on va passer des détails ça. À la con, mais en gros aujourd'hui effectivement sur cette anecdote j'ai pas grand chose à me reprocher si ce n'est que d'être dans un mal-être, d'être seul avec ma fille, de me faire chier en hiver et d'avoir un parc avec de l'eau froide à côté. Bref, et puis pas la thune parce que je suis au RSA à cette période-là, donc ça veut dire que j'ai de quoi vivre, j'ai juste de quoi vivre,
ouais,
voilà.
De survivre.
Ouais, et bref, là-dessus, du coup, je balaye un petit peu le temps qui fait que je quitte cet appartement d'André, que je lui rends en très bon état, donc mon père est fier vis-à-vis de cet ami, que je remercie encore aujourd'hui, me permet d'accéder à un appartement qui sera le mien, un petit appart, comme il est petit, tac, je dégage et je vais habiter dans un village à côté, et là je vais à Gigean, et dans le même registre, en fait, à Gigean, là on est dans le dur, là, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'environnement, l'appartement de Gigean, je suis dans le fond du trou, et pour pouvoir accueillir ma fille, qui vient tous les 15 jours, ben, je vous invite à imaginer, là, fermez vos yeux.
Il est là, l'océan de Canette,
ouais,
il est dans l'appartement de Gigean, en fait.
Alors c'est un mec qui loue un appartement, et comme 99% des locations, quand t'arrives, les murs sont blancs, le carrelage est blanc, enfin c'est un appartement, il est blanc.
Ouais, alors, j'allais te... Ouais.
Ouais, c'est blanc, c'est beau, c'est propre, c'est blanc.
Décris-nous l'intérieur de ton appart.
Tu rentres, t'as une grande pièce de vie avec un grand carrelage blanc, avec une cuisine, pas ouverte, mais un coin cuisine sympa.
Ouais.
C'est grand, l'appart en tout, il fait 70, je crois, 80, 65 mètres carrés. T'as une grande pièce de vie, un chiotte séparé.
Ouais.
Et puis après, c'est un peu bizarre, t'as une chambre qui sert de couloir pour aller sur une énorme terrasse.
D'accord.
Et comme c'est une vieille maison, la chambre, elle est un peu en trapèze, là. C'est pas rectangulaire, quoi. Et dedans, t'as une salle de bain toute pourrie. Ça va pas m'aider. Parce que la salle de bain, pour rentrer, il faut que tu rentres, il faut que tu te faufiles derrière la porte, il faut que t'ailles derrière la salle de bain. Et la salle de bain, t'as pas de pression, l'eau chaude, elle vient de la cave, là, en bas. Elle est tout le temps froide. Il faut 2 heures pour qu'elle chauffe. Alors déjà, l'hygiène de vie, c'est pas, tu vois,
c'est pas top.
Mais
quand
alors
on est
là
alcoolique,
en plus quand
mais...
tu regardes, ouais, et alors là, quand tu regardes la douche et que tu sais qu'il va falloir 2 heures pour avoir l'eau chaude,
encore moins, quoi.
Encore moins. Donc du coup t'imagines le mec,
ouais, donc
je vis dans un bon, déjà moi je suis pas très propre, et à l'époque je fume 3 paquets de clopes par jour.
Ouais, sympa.
Je vis déjà à 3 grammes dans le sang tout le temps, donc
ouais.
H24. Et je suis un gestionnaire de ouf. J'ai pas de permis la plupart du temps. Enfin, là, j'ai pas de permis à Gigean. Et donc, il faut que je fasse mes réserves d'alcool, etc. Donc, en fait, j'ai une grosse réserve d'alcool. Comme ça, je suis sûr de pas manquer. Et j'achète mes clopes tous les 3 jours, 70 balles. À l'époque, c'était 7 euros le paquet. Donc, la cartouche 70 balles de Philippe Maurice Marron. Je fais la pub. Je suis obligé parce que c'était les meilleurs clubs du monde.
En tant que non-fumeur,
ouais,
maintenant.
Voilà, c'est ça.
Non-fumeur, non-fumeur.
Écoute, je te fais un petit descriptif.
Oui. Oui, oui.
Entre mon lit où t'as des cadavres de oui. Là, en général, tu trouves des cadavres de whisky. Je vais pas faire okay. de pub. J'ai mes cadavres de whisky et par contre, pour aller de mon lit à ma table basse qui est matériellement à 3 mètres, c'est-à-dire faut sortir du lit, atteindre la porte d'entrée de la chambre
oui.
et de la chambre faut 1 mètre pour aller à la table basse et de l'autre côté de la table basse, tu rajoutes 1 mètre. C'est-à-dire que, en gros, entre mon canapé et mon lit, il y a 5 mètres. Et entre les deux, il y a une table basse de chêne
okay.
familiale que je connais depuis que je suis né,
d'accord.
qui est chez mes parents, que j'ai récup parce que je la kiffe. Et ben, elle fait matériellement 40 cm de large et 1 mètre de long. Et au milieu de cette table, tu as un cendrier rond qui est un cendrier que je traîne depuis des années.
Je l'ai en vue.
Et en fait, à chaque fois que j'éteins ma clope, tu penses bien que j'ai pas le temps le lendemain ou à n'importe quel moment d'aller vider mon cendrier. Donc en fait, le cendrier, il est plus que plein. Ça fait une pyramide de cendres devant toi, imagine. Hein. Elle fait la pyramide de cendres.
Je vois bien.
Elle fait 30 cm de large à la base et elle fait 20 cm de haut. et en fait, juste, je pousse mes clopes comme ça en haut et juste le fait d'être dans la cendre, elle s'éteigne. Mais sauf que, tu sais, c'est comme les jeux de pièces au casino.
Oui,
là,
oui,
tu
oui.
pousses les pièces du bas, mais doucement. Et en fait, tu penses bien, il y a des cendres qui vont partout, etc.
Ouais.
Et tu pourrais te dire, ça tombe sur le carrelage blanc, mais pas du tout. Ça tombe. Mon sol, c'est des canettes de bière noire pas bonne. Vous savez, je vous ai déjà dit, la dégueulasse.
Oui, oui, oui. Ouais. Celle où le taux d'alcool, parce qu'un alcoolique
fort,
va chercher
oui.
le taux d'alcool dans la. Voilà,
t'achètes
c'est
au taux
ça.
D'alcool.
C'est
tu vois,
ça. Ouais, ouais,
ton,
ça
euro,
j'ai retenu.
Ton euro, il est précieux.
Oui, oui.
Et du coup, en fait, par terre, j'ai toutes les canettes de bière. C'est le même principe. C'est-à-dire que tu les bois, une fois qu'elle est vide,
tu les mets
tu peux pas
terre.
La poser sur la table, il y a trop de cendres. Tu vois, et tu poses par terre et après tu la pousses pour qu'elle ne gêne pas. Mmh. Et en fait, pour aller de mon lit à ma table, parce que je fais que ça, hein,
oui.
mon lit, ma table, parfois tu vas aux chiottes, parfois tu y vas quand même.
Ça,
tu
c'est
vois,
le quotidien de l'alcoolique.
Et en fait, ouais, ça, c'est le quotidien
ouais.
de l'alcoolique.
Ouais, c'est ça que je voudrais que tu nous racontes.
Non, mais je fais que ça. Et je ne fais que ça. Oui. C'est-à-dire que j'ai mon taux, il monte. Je suis pas trop mal, c'est-à-dire qu'en fait, je suis pas triste, je pleure pas, voilà. Et je pars pas trop en couille dans ma tête. Mon taux diminue. Là, j'ai toutes mes souffrances qui me sont propres. Hein, et là, les mecs qui picolent, chacun ses souffrances, chacun son histoire. Et chacun sa montagne. C'est-à-dire qu'il faut entendre ça chez
ouais.
vos proches.
Oui.
C'est qu'il y a une souffrance. Et tac, en fait, je me remets mon petit taux qui fait que ça passe. Et en fait, tu dors pas, tu comates. Et pour comater, t'es mieux dans ton lit parce que t'es mieux allongé.
Ouais.
Et donc voilà, mon quotidien, ben, il se résume à ça. Et en fait, j'attends désespérément que ma fille revienne tous les 15 jours. Et en fait, pour aller de mon lit, et je finis sur la partie un peu d'autodérision et de rigolade,
ouais.
c'est que tu vois comment ça fait un mec qui fait du patin à glace.
Oui, je vois t'sais, bien,
il pousse,
tu traînes
mais
des
il
pieds,
lève
tu
pas.
Pousses.
Ouais, il
ah
lève
ouais.
pas les pieds.
Non.
Moi, chez moi, tu peux pas lever le pied parce que si tu lèves le pied, tu vas le reposer sur un truc rond et tu vas tomber. Ça m'est arrivé, hein.
Ouais.
Mais du coup, tu pousses les cadavres. J'ai dit les bières, mais il y a aussi des bouteilles de vin parce que j'aime le vin. J'ai ma cave à vin, j'ai les cubis, j'ai tout ce que tu veux. J'ai le Sky parce que je bois du Sky. Mais vin, bière et Sky, voilà, c'est mes trois alcools. Et tu pousses comme ça, tac, et je peux aller dans mon lit. Mais c'est dégueulasse, ça pue, mon lit, mon matelas, je l'ai récupéré quand je suis sorti après des soins dans cet appart. Il est jaune, dégueulasse. J'ai des photos que je t'ai montrées. T'as
oui,
dit une photo,
exact.
Je t'ai montré des photos. Enfin, vraiment, c'est la mort, quoi. Vraiment.
Complé.
Et là, le diable a toute sa place. Et du coup, j'ai ma fille tous les 15 jours, quand même. Comment ?
C'est ça.
Comment ?
C'est que j'avais envie de te parler de temporalité. La temporalité d'un alcoolique. Donc, tu viens de l'aborder, la temporalité.
Ouais.
C'est qu'il y a un taux d'alcool dans le sang. Tu te réveilles. Est-ce que tu dors ou est-ce
non,
que tu fais
tu dors
un
pas,
coma ?
C'est non,
ça.
Il n'y a pas de temporalité.
Il n'y a pas de temporalité.
Chez les alcooliques, il n'y a plus de temporalité. Un alcoolodépendant, il s'en fout de savoir s'il fait jour ou nuit.
Ouais.
Il a un taux d'alcool et son corps lui rappelle que le taux d'alcool n'est pas bon. Il faut qu'il remplisse. Donc, tu te réveilles parce que tu es en train de comater. Donc,
ouais.
tu n'es pas en train de dormir parce qu'il fait nuit. Tu comates et quand ton taux d'alcool est en dessous, ton corps te dit oh,
oui,
s'il te plaît, la dose.
Ouais, vite.
Voilà. Et en fait, tant que tu n'as pas la dose, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que pour moi, c'est l'enfer.
C'est ça.
C'est que si tu n'as pas ta dose, tu ne peux pas te lever et aller aux chiottes, en fait. Voilà.
Ouais.
Donc, avant d'aller aux chiottes pour aller chier, voilà, parce que c'est comme ça qu'on dit, bah, il faut que tu boives ton petit verre qui fait que tu vas
avant
pouvoir
de...
faire les 10 mètres. Allez, voilà, pour pouvoir. croire que tu vas nettoyer tes toilettes propres, ouais. Tu vois, voilà, mais tout ça, c'est de la, tout ça, c'est un autre monde.
Avant de faire les 10 mètres, en patinant ouais, voilà. À travers les canettes.
Alors, par contre, tu vois, je vais aller dans ce qui est moins drôle quand même, ouais. Parce que effectivement, donc je n'ai pas de temporalité. Par contre, les gens et ma fille, elle
en a une. Hein.
Elle a une temporalité. Et, oui. Et elle vient chez son père. Elle a envie de venir chez son père. Oui. À ce moment-là, je suis le meilleur des papas du monde, hein,
oui,
pour la mère de ma fille, pour ma fille, pour tout le monde, pour les gens qui veulent bien admettre que ben, ça ne va pas très fort. Et quand même, la mère de ma fille sait que je prends soin de ma fille du mieux que je peux. Ce n'est pas l'éclate, mais elle n'est pas en danger. Voilà,
ouais,
elle,
c'est ça.
Je sais que j'ai mon enfant et je ne fais pas non plus de la merde avec mon enfant. J'ai du mal à sortir de mes démons. Et finalement, et c'est un peu le paradoxe de ma vie avec ma fille, c'est que finalement, quand elle vient, elle est un peu mon pansement, elle est un peu mon médicament, elle est un peu mon souffre-douleur. Or, c'est pas sa place et c'est pas son rôle. Et ça, c'est classique dans le schéma des gens qu'on rencontre. L'enfant, lui, vient soigner le parent et les rôles s'inversent. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Bref, là-dessus, j'ai ma fille qui vient tous les 15 jours. Et là, je vous ai raconté la petite anecdote de Balaruc-les-Bains. C'était rigolo, Balaruc-les-Bains, parce qu'elle va jouer à la marchande. Mais là, j'en ai une moins drôle. C'est que on est vendredi, je sais que c'est le week-end qui arrive. Et ce jour-là, dans ma tête, ça ne va pas. Et j'ai une consommation qui est importante. C'est violent dans ma tête, je suis en colère, je suis vraiment pas bien, quoi. Et donc, je consomme, je fais ce jour-là, je m'en apercevrai après, mais je fais n'importe quoi et je vais dans une consommation qui est tellement excessive que je perds un peu la boule. Un peu beaucoup. Et sur le coup de là, pour le coup, il fait nuit. Je sais pas quelle heure il est précisément. Il fait nuit. Je sors d'un petit coma là, d'excès d'alcool certain. Mmh. Et on n'a qu'une chambre et dans le lit une place à côté de moi, un lit pliant assez sympa pour ma fille. Le lit est là et là il y a pas ma fille dans le lit. Là il y a pas ma fille dans le lit alors que je me suis couché avec ma fille à côté de moi. Donc, j'ai un petit moment de panique, j'allume la lumière, je vois qu'elle est vraiment pas là, je me dis elle est peut-être dans la salle de bain qui est dans la chambre, parce que je suis bourré, quoi, et donc j'ai pas forcément les cinq sens éveillés, mais du coup je l'entends pas, je la vois pas, j'ouvre la porte, je la vois pas. Là, j'ai une petite panique qui commence à se mettre, parce que, à part être aux chiottes, je vois pas où elle peut être. Donc, je traverse la pièce de vie avec tous les cadavres, là c'est pas drôle parce qu'ils te font bien chier pour aller jusqu'aux toilettes. Elle n'est pas aux toilettes. Je vérifie la porte d'entrée, elle est ouverte. Mmh. Ouverte, j'ai pas dit la porte est ouverte, j'ai dit la clenche, y a pas c'est pas fermé à clé, quoi.
D'accord, ouais.
Et la porte est ouverte. Or, je me couche avec la clé fermée parce que les histoires de vie font que tu as peur la nuit,
oui,
tu fermes
même.
Ta maison.
Ouais, quand même. Mmh.
Même si je risque rien là où j'habite, il n'y a pas ma fille chez moi. Ah là, je commence à réveiller les voisins. Le mec bourré qui... Enfin, tu
qui
vois,
panique.
Qui, ouais, celui que t'entends et que tu vois, là.
Ouais, oui.
Je panique de ouf, je cherche ma fille partout. Impossible de trouver ma fille, je
désorienté,
sors.
Désorienté, je suppose.
Bah, complet, désorienté, complet. Sauf que, en fait, mes voisins, je suis discret. Donc, mes voisins, il y a une petite fille.
Ouais,
tu vois, ils la voient une fois tous les 15 jours. Et on est discret, on est dans l'appart, on fait des gâteaux. Enfin, tu vois, c'est pas l'enfant qui va tous les jours à l'école et qui passe devant la voisine Michel, quoi.
Ouais.
Non, là, on... Et il n'y a pas ma fille. Donc, du coup, bah forcément, qu'est-ce que font les gens? Bah, ils appellent la police, ils appellent la gendarmerie, ils appellent les pompiers, ils appellent tout le monde.
Logique.
Et là, en fait, l'enfant n'est pas chez moi. Et là, c'est la merde quand même.
Ouais.
Du coup, je suis dans un état profondément alcoolisé. Je suis forcément confus dans mes propos. Et la gendarmerie qui est là fait son taf. Et en tant qu'il y a un enfant, il constate qu'il y a le lit d'enfant, qu'il n'y a pas d'enfant chez moi, qu'il n'y a pas d'enfant autour de la maison. Et donc, ça met tout le monde en panique. Et à un moment, les pompiers, ils se mettent d'accord. Je ne me rappelle pas de ces détails-là. Mais à un moment, quand même, ils considèrent que je ne suis pas fou et que je ne suis pas en train de dire de la merde.
Ouais.
Donc, où est l'enfant? Et ma fille s'est barrée, elle est partie, qu'est-ce qu'elle est devenue, quoi? Eh ben, écoute bien, j'avais complètement imaginé que ma fille était là et j'étais complètement persuadé qu'elle était avec moi. En réalité, elle n'est pas chez moi, elle est chez sa mère.
Oh punaise.
Et les gendarmes, en fait, vont prendre conscience qu'il y a un enfant avec un papa alcoolisé et que c'est pas possible que l'enfant soit avec un papa dans cet état. Et donc, du coup, ils vont quand même aller vérifier où est l'enfant. Et donc, ils me disent, mais qui est la maman ? Donc, je leur dis où est la maman, où elle habite, les coordonnées, etc. Mm-hmm. Ils appellent la maman en pleine nuit.
Oh, punaise.
Elle a vraiment autre chose à foutre, tu vois. Et c'est là où l'alcoolique, il fait chier le monde, quoi, tu vois. Et en fait, ils l'appellent, mais s'ils s'étaient contentés de ça, ils ont fait leur taf.
Et oui, ils sont allés jusqu'au
bout. Ils ont appelé la brigade de chez la mère de ma fille. Et la brigade de chez la mère de ma fille est allée contrôler non seulement qu'il y avait l'enfant, donc ils ont réveillé ma fille, ils lui ont fait dire nanana. Et comme c'est une famille recomposée dans tous les sens, t'as un mec qui a rien à voir avec l'enfant, t'as le grand frère, ils savent pas qu'il y a un grand frère,
parce
qu'il y a qu'un enfant, moi j'ai qu'une fille, un bordel. Et ben voilà, ça c'est une trace que j'ai laissée à ma fille. Et ça dans les gens qui nous écoutent, mais c'est le quotidien des alcooliques. Ça, c'est une anecdote. Celle-là, elle m'a marqué et elle va avec ce que je te raconte aujourd'hui. Mais c'est juste une anecdote d'un mec qui est dans le mal.
Oui,
c'est juste une anecdote parmi les autres.
Qui est confus, qui croit que sa fille est là, dans une temporalité qui n'existe plus, en fait. Et c'est à cette période-là. Du coup, ça se finit comment, ça ? Tu finis hospitalisé ?
Oh, bah là, je vais t'épargner ça. Je vais épargner aux gens comment ça finit. Contrôle, là-bas, mère de ma fille qui me dit, mais quand même, là, enfin, tu vois, faut que tu fasses quelque chose. Et elle va pas dire, ça se conclut comme ça. On me dira pas, c'est pas encore à ce moment-là qu'on me dira, monsieur, vous êtes malade, donc monsieur, vous pouvez vous soigner. Non, là, on te dit, tu fais chier avec ton alcoolisme.
C'est ça, encore une fois.
Voilà, encore le boulet qui nous emmerde.
T'es encore le boulet qui est... Et la maladie n'est pas encore prise en compte correctement.
Non, là, il n'y a pas.
C'est ça, tu fais des allers-retours fréquents aux urgences de 7.
Ouais.
Mais ce n'est pas pour cette raison-là que tu fais des allers-retours fréquents.
Pas des allers-retours fréquents. Je suis à 7 tous les 3 jours.
D'accord.
J'enregistre un record de prise en charge aux urgences de l'hôpital de 7.
Ah d'accord, carrément.
Pendant 3 ans.
Moi, je pensais que c'était juste fréquent.
Non, t'es vraiment dans le mal, quoi. Le 7, c'est la deuxième maison.
C'est la deuxième maison.
Ouais.
Ok.
C'est la deuxième maison et j'y passe trop de temps. Voilà.
D'accord.
Mais du coup je suis pas encore dans le soin et du coup je pense que ça nous amènera à discuter de ça ultérieurement.
C'est ça. C'est-à-dire que ça va nous emmener à la prochaine émission effectivement de tout ça. On doit se séparer déjà ?
Eh ben ouais, ça passe vite.
Ça passe super vite. Moi, je voulais remercier donc Issa à la régie.
Eh ouais, merci Issa.
Merci Issa, c'est cool. Merci Patrick.
Mais
c'est
merci,
toujours passionnant de t'écouter et ça remet vraiment les choses dans leur contexte. Et je pense qu'il y a des personnes qui, quand elles nous écoutent, peuvent se projeter aussi, soit pour elles, soit pour les autres. Je voulais faire une spéciale dédicace.
Vas-y.
Pour une de nos auditrices qui s'appelle Jo, qu'on embrasse très très fort, qui écoute toutes les émissions, qui nous suit qui nous suit régulièrement. Et salut Jo, on t'embrasse très 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 fort. Et voilà, on avait envie de te faire un petit coucou.
Allez, merci Jo pour ton témoignage parce que je l'ai partagé avec Mel. Et c'est le but, donc n'hésitez pas, Radio Escapade. radioescapade.org et d'une manière ou d'une autre vous pouvez, si vous avez des questions ou vous avez envie de réagir, on est là pour ça. Et je le dis parce que c'est ça qu'on est en train de monter, on est en train de monter avec Mel, on est en train de monter une petite émission télévisuelle, donc on va enrichir ce dossier.
C'est ça, on vous embrasse tous, passez une excellente après-midi, ciao.